Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto.
Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto, 12 avril 2024. Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé sont avec moi.
Bonjour.
Bonsoir les gars.
Bonsoir.
On dit bonsoir, mais on est le matin. Ça vient juste de prouver qu'on n'est pas en direct. C'est pas grave. bon, écoute, on va parler, Hugues, cette semaine, d'un véhicule que peu de gens connaissent.
Ouais.
Et pour cause, il n'a pas été vendu ici officiellement.
Déjà au départ.
Bien qu'il traîne quelques exemplaires, c'est le Lincoln Blackwood. Un véhicule qui a donné suite à une deuxième génération de camionnettes chez Lincoln, qui n'était pas plus une meilleure idée, mais ça, on va y reparler
un peu
plus tard. Évidemment qu'on va parler de la Fiat 500 électrique qui débarque chez les concessionnaires ces jours-ci. On a pu aller en faire l'essai du côté de la Floride. Mais pour commencer, bon, évidemment, la nouvelle de la semaine, c'est Louis-Philippe, le dévoilement du Toyota 4Runner.
Yes.
Sans surprise, tous les éléments techniques sont empruntés, bien sûr, à la Toyota Tacoma, la camionnette Tacoma, qui est nouvelle aussi cette année. Là.
Ben oui, on pourrait l'appeler le Taco Runner, hein, le 4Runner, ouais. Parce que c'est les deux mêmes motorisations, le 2.4 litres turbocompressé.
Ça se vendrait au Mexique, ça, Taco Runner.
Ben, ça se vendrait bien.
C'est comme nom.
Ouais.
Les deux mêmes motorisations, hein, 2.4 litres turbocompressé, et 2.4 litres turbocompressé avec le système hybride Max de Toyota.
Et ça va être pas pire. Là. 326 chevaux, 470 livres-pieds de couple dans un 4Runner qui gagne quoi? 5 vitesses de plus que l'ancienne ou 4 vitesses de plus que l'ancienne?
C'est toute une nouveauté.
Mes maths sont pas bonnes aujourd'hui, là, mais on va l'avoir.
C'est ça.
Il y avait une transmission 5 vitesses automatique dans le passé. On en ajoute 4, ça fait 9. Ou on ajoute 3, ça fait 8. Mais bref, c'est une transmission beaucoup plus moderne et surtout...
Véhicule beaucoup plus moderne de pare-choc à pare-choc.
Et puis écoute, il faut quand même le souligner. Lorsqu'on a dévoilé la semaine dernière l'image de la partie arrière supérieure du 4Runner, parce que Toyota est maître dans l'art de te montrer un coin de flasher, puis un bout de roue, puis après ça, le coffre à gants avant de dévoiler le véhicule, j'étais persuadé que c'était le même véhicule qu'on avait depuis 14 ans.
Il se ressemble beaucoup.
La forme de la lunette arrière, elle est carrément identique. Là, évidemment, quand ils ont dévoilé le camion, j'ai compris que c'était tout nouveau, from the ground up, là, mais on garde la même essence, mais évidemment, la sauce plus moderne, et bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont empruntés au Tacoma.
Ouais.
On parle de la mécanique, mais tous les éléments de style, bon, l'habitacle, là, c'est pas une surprise. Là. C'est une formule essentiellement qui ne date pas d'hier, parce que si on se souvient bien, le premier 4Runner qui avait été lancé en 1983 comme modèle 84, si ma mémoire est bonne, c'était directement dérivé de la camionnette Toyota qui avait été lancée au début des années 80 aussi. C'est essentiellement, et c'est un véhicule, si vous vous souvenez bien, qui avait une partie arrière découvrable, un peu comme un Bronco à l'époque. Bon, évidemment, on est arrivé avec une deuxième génération où là, c'était des toits fixes. Puis le 4Runner est devenu un véhicule embourgeoisé, 4 portes seulement, etc., etc. Mais la formule a toujours été celle d'emprunter une technologie à une camionnette chez Toyota. Sauf que dans les dernières années, ben, on a conservé la même formule pendant très, très, très longtemps, alors que la camionnette Tacoma, elle, s'est raffinée au fil du temps.
Oui. Chez Toyota, c'est long. Hein? Les cycles de produits sont très longs. Je pense qu'on... Toyota s'est donné, justement, en 2024, on nous annonçait des dévoilements, des lancements, plusieurs véhicules pour compétitionner pardon, dans plus de segments. On regarde le 4Runner, il y a énormément de potentiel juste avec ce qu'ils ont développé avec le Tacoma. On espère que ça va être abordable parce que les vieux modèles que tu parlais, on s'entend que c'était à vocation un petit peu plus abordable. Maintenant, abordabilité, ça veut plus dire la même affaire.
Non. Le Forerunner va devoir quand
devoir
même...
Devoir rester, oui. Ben, plus bas, là.
C'est-à-dire que là, on a un nouveau joueur qui s'appelle le Land Cruiser. Ouais. Les prix sont quand même élevés du Land Cruiser, mais on ne peut pas aller s'en rapprocher.
Ben non, parce qu'on va cannibaliser les ventes.
Il faut qu'il y ait un écart entre ces deux produits-là. Donc moi, je ne suis pas persuadé qu'un Forerunner va coûter beaucoup plus cher que l'ancienne génération. Mm-hmm. On a une plus grande déclinaison, puis c'est évident qu'une version Trail Hunter va coûter la totale.
Ouais.
Mais on ne sera pas drastiquement plus cher que l'ancien modèle. Je pense qu'on veut faire du Forerunner un nouveau modèle phare chez Toyota. Parce que contrairement à d'autres véhicules comme le Land Cruiser, ce n'est pas vendu à l'international. Un Forerunner, c'est un véhicule développé et conçu pour le marché nord-américain d'abord et avant tout. Parce qu'il utilise les bases, évidemment, de la Tacoma, encore une fois. C'est la plateforme TNGA-K qu'on utilise sur plusieurs camions chez Toyota, mais les motorisations sont exactement les mêmes. Puis évidemment, ben, on prend le même chemin que ce que Ford a pris avec le Bronco, c'est-à-dire qu'on utilise désormais des 4 cylindres turbo plutôt que des 6 cylindres. Bon, dans le Bronco, il y a aussi accessoirement des 6 cylindres pour les modèles de haute performance. Bon, tu vas me dire qu'il était temps là, qu'on abandonne le 6
avec la 5 vitesses qui était...
C'était archaïque.
Mais buvait tellement de carburant.
Mais... le Forerunner a quand même fait le travail pendant 14 ans, puis à un certain moment donné, on se disait, mais ça n'a pas de bon sens, ils vont pas garder ça. Pour moi, il est arrivé une espèce de creux de vague pour le Forerunner qui avait été lancé en 2011. Là, on était rendu en 2015-16, ça n'avait pas bougé. J'ai fait là, on est en train de le perdre, surtout que Jeep connaissait beaucoup de succès avec le Grand Cherokee, par exemple. Et finalement, ce même Forerunner-là, on a été capable de l'endimancher pour que les gens y trouvent un nouvel attrait. On a redessiné la calandre, on a modifié les versions disponibles.
On ajoutait de l'équipement, par exemple, dans les versions TRD, etc.
Oui, c'est ça. Puis on s'est mis à jour un peu côté technologie embarquée. Là, Apple CarPlay est arrivé sur le tard, mais ça a fini par arriver. Donc, au final, le Forerunner se vendait encore très bien. L'année record... j'ai pas vu les chiffres de 2023, mais l'année record du Forerunner depuis son renouvellement en 2010, c'était 2022. On avait vendu plus de Forerunner en 2022 qu'en 2010, alors que le véhicule était âgé de 13 ans. Alors, c'est dire à quel point...
C'est du Toyota.
Oui, c'est ça. Alors,
la fidélité de la clientèle.
Le nouveau Forerunner va faire... va connaître beaucoup de succès, j'en suis persuadé, parce que c'est pas le genre de véhicule qu'on achète pour avoir un rendement énergétique intéressant, mais si on peut l'obtenir plus que partout ailleurs, il y a un as de plus dans la manche de Toyota. Et bon, évidemment que Jeep a un 4XE avec son Wrangler, mais on sait ce que ça donne. Et du côté de chez Ford, ben, oubliez l'économie de carburant, il n'y en a pas. Là, après ça, est-ce que le marché va demeurer ainsi? Ou est-ce qu'il y a un GMC qui, un jour, va se réveiller en ramenant un Jimmy, par exemple?
Oui.
On en a déjà parlé.
On en a parlé la semaine dernière.
Mais Jimmy basé sur un Canyon, ça serait on ne peut plus logique.
No-brainer.
Avec le 4 cylindres qu'ils ont, le 2,7 litres, qui n'est pas mon moteur favori, mais qui pourrait faire un sacré bon boulot dans un camion comme celui-là. Et on sait que Nissan... travaille le terrain pour un Xterra. Là, il y a plusieurs véhicules esquisses qui ont été vus sur le web. Et en toute logique, de baser un Xterra sur l'actuelle camionnette Frontier, ça serait une formule assez facile à faire, pas trop coûteuse. Puis c'est un segment qu'on a laissé aller complètement. Il y a de l'argent à faire, là. Jeep et Ford font des affaires d'or avec ça. Le Forerunner, c'est un véhicule extrêmement lucratif pour Toyota.
Ouais.
Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 3 joueurs dans ce segment-là? Parce qu'il n'y a personne d'autre là, qui joue dans des authentiques utilitaires de ce genre-là, dans les marques mainstream, j'entends. Là. Évidemment que si on va chez Land Rover, bon. Mais
je pense que ça ne durera pas bien longtemps. Je pense que ça va l'engouement va être tel... pour ces véhicules-là, puis les gens sont prêts à dépenser pour les accessoires, pour les modèles cossus, pour les variantes en route, encore plus en route, comme le Trail Hunter, justement.
Particulièrement ceux qui n'en font jamais.
Évidemment.
Oui, bien évidemment. On l'a vu dans des véhicules plein format, là, on l'a vécu avec les camionnettes plein format, que les gens, puis les prêts à dépenser pratiquement 100 000 $ là, pour une camionnette qui a tous les atouts d'aller dans les sentiers, mais qui finit dans le parking du IKEA, là.
C'est ça. Puis encore, quand ça se retrouve dans le parking du IKEA, c'est peut-être pour aller acheter une plante puis 6 verres. C'est pas,
C'est l'aventure du week-end.
Oui, ouais, c'est ça, exactement. Bon, donc, à suivre pour le 4Runner, on aura les prix dévoilés d'ici peu.
Hâte de voir ça.
Bien hâte de voir aussi quand le véhicule sera officiellement mis sur le marché, mais ça va forcément débarquer après le Land Cruiser, qui lui va être offert au compte-gouttes chez les concessionnaires, une ou deux unités par concession pour la première année. À quel point on décide, à quel point on veut en vendre, c'est une bonne question. Là. Mm. Land Cruiser, c'est un véhicule qui va être super lucratif, mais surtout aux États-Unis. Puis j'ai l'impression qu'on va bouder le Canada avec ça en raison de la profitabilité. Puis le 4Runner...
Puis le 4Runner va prendre...
Ça va faire un peu la même chose.
Prendre ces clients-là aussi.
Bref, on va voir quelle est la stratégie de Toyota si on est capable d'avoir un maximum d'unités, parce qu'il y aura de la demande ça, pour ça. Fisker, ça risque d'être un peu différent par contre. Hein? Ça va moyen bien, là.
Oui. Non, c'est
l'euphémisme du jour.
Ah. Ouais, ouais. C'est peut-être un mauvais karma aussi.
Oh, tu l'as préparé celle-là. C'est une marque à lancer dans l'océan.
Hein? C'est ça. Ben oui.
Fisker, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait une association avec Nissan.
C'était non confirmé des deux côtés. On l'avait parlé brièvement.
Et ça permettait à Fisker de relever la barre et d'aller à un prochain niveau.
Oui.
Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Oui,
c'est 463 millions que Fisker a perdu. Au quatrième quart, ils viennent de renvoyer 15% de leur force de travail. Quand ça arrive, ces trucs-là, c'est souvent de mauvaise augure. Là. On aimerait ça que Fisker arrive un peu comme, par exemple, Rivian a fait 2-3 concepts, des bonnes nouvelles. On a livré quasiment 100 000 véhicules, ça n'arriverait pas, mais je parle du côté de Rivian. Gagner la confiance un peu des automobilistes. Mmh. Avec Fisker, c'est juste des mauvaises nouvelles qui sortent.
Là, les camions sont bradés. Apparemment, on peut les avoir à de cost. Là.
Bon, ben, c'est ça, tu viens de le dire. J'ai regardé les prix sur le site canadien. Puis sur le site américain, c'est arrivé en premier. Mais maintenant, là, c'est 32 000 $ de moins pour une variante extreme du Fisker Ocean pour le modèle 2023. Donc, toutes les 2023 sont là. Ils sont à vendre. Là, ça descend à peut-être 20 000 $ là, pour la variante de base, mais c'est des gros, gros, gros rabais. Et puis, on lit sur le web tous les spécialistes et on se dit, achetez pas ça. Là. Même avec les rabais, achetez pas
ça. Mais est-ce que
honnêtement, ça inspire pas confiance. Quoi. Tu te dis, la maintenance d'un char électrique, quoi qu'on en dise, ça en prend. Et puis, si tu peux plus du tout entretenir ton truc ou changer des batteries dans 5 ans, à quoi ça te sert?
Ben, c'est ça. En même temps, moi, ça me donne pas l'impression d'un produit qui est bâclé. Là. Je pense que c'est quand même un produit qui est sérieux.
Il y a plusieurs innovations techniques. Sur le papier, ça partait super bien.
Ouais.
Sur le papier.
Oui, avec le toit solaire, ouais. Le design aussi.
Le design était excellent. La fiche technique était quand même dans le coup.
Ouais. C'est fascinant parce que tu regardes ça et tu te dis, ce véhicule-là mériterait d'être lancé et d'être propulsé puis de connaître du succès.
Mm-hmm.
Oh, absolument.
Et pendant qu'on est en eau trouble et qu'on se demande si ça va survivre, ben t'as VinFast qui multiplie les ventes avec un produit qui n'est pas là. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, quand tu regardes la technologie d'un VinFast versus un Fisker Ocean,
c'est
deux mondes là, pour une facture qui est très comparable, soit dit en passant.
Le VinFast, il est encore en train d'être assemblé à la hâte là, pendant que les véhicules roulent.
C'est surtout la technologie. Je veux dire, c'est un véhicule qui consomme pratiquement deux fois plus d'énergie qu'un Tesla Model Y pour un format équivalent. Explique-moi ça, là, Jean-Claude, ça marche pas. Alors que Fisker, il y a des innovations techniques, les panneaux solaires pour alimenter les accessoires, les glaces de custode qui s'abaissent complètement. Il y a plein de belles petites idées là-dessus. J'ai fait
qu'on retrouve pas là chez les autres.
C'est ça, tu vois pas ailleurs. Puis je veux dire, tu vas me dire, le panneau solaire, c'est pas nouveau. En même temps, qui le fait?
Ouais,
eux, ils ont eu l'audace de le faire.
Puis
ça permet d'économiser de l'énergie. Puis ça permet d'en faire un véhicule.
Tu n'es pas obligé de l'avoir non plus. Là, si tu es au Québec, par exemple, puis tu dis ça vaut pas la peine 6 mois dans l'année, il y a trop de glace sur le véhicule ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même des options qui sont là puis qui sont intéressantes.
Je trouve ça dommage. C'est sûr que là, si demain matin, tu me proposais un Fisker, je dirais peut-être pas. Mais je souhaite vraiment que cette compagnie-là soit capable de se remettre sur pied, puis de nous amener de nouvelles idées. Ça fait longtemps qu'on nous parle du Fisker Ocean. C'est un produit de prix entre guillemets, raisonnable. Alors, c'est pas une bébelle qui part à 150 000 $ comme c'était le cas avec un Rivian ou une Lucid, par exemple. Ouais. Alors, je trouve ça dommage qu'on ait autant de misère.
Les produits qui s'en venaient, le petit pick-up,
c'est
vraiment
ça.
De la gueule.
Ouais. Mais tu sais, comment expliquer qu'il y a des startups qui réussissent à passer le cap problématique comme c'est le cas avec Rivian qui est pas une compagnie qui fait des milliards en ce moment là, on s'entend là, ça c'est quand même fragile, mais au moins on a passé cette étape de vendre une bonne quantité de véhicules, de se faire connaître, de faire ses preuves, et c'est devenu un objet à la mode qu'on s'arrache, notamment en Californie. Alors,
chez Rivian, on a commencé également avec les véhicules commerciaux. Là aussi, on en livre quand même beaucoup. Fait que c'est comme une variable qui existe probablement pas là, chez Fisker.
Mais qui amène de l'eau au moulin.
Oui, exactement.
C'est pas tant connu du public, mais ça amène énormément d'eau.
Qui rivalise pas avec le même type de clientèle.
Oui, voilà. Alors, pour le moment, tout est sur le haut.
Ouais, non, mais je pense que c'est important de souligner qu'en fait, c'est un peu aussi une mise en garde pour toutes les autres compagnies, parce que quand Tesla est arrivé sur le marché et que la capitalisation boursière a explosé, tout le monde s'est dit c'est génial, ça va marcher, on s'engouffre là-dedans. Et comme il y a 100 ans, quand l'automobile a démarré, tout le monde s'est arrivé sur le marché, puis en 10-15 ans, on est passé de 2000 marques à quelques dizaines.
Le troupeau s'est rétréci.
Il faut quand même se rappeler que l'investissement pour concevoir et développer et vendre un char électrique est gigantesque, et que non, c'est pas parce que Tesla y est arrivé
que tout le monde
va y arriver, et va y avoir de la casse. Et ça, c'était prévisible. J'avoue que j'aurais pas misé sur Fisker partir à la casse. J'aurais misé plus sur un VinFast ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que Fisker, déjà, il s'est planté une première fois. Ça veut dire qu'il a, le gars est pas con, il a appris de ses erreurs. C'est à peu près sûr. Et deuxièmement, il avait quand même trouvé des partenaires assez sérieux. Et franchement, ça augurait bien. Et les produits avaient l'air hyper cohérents. Mais voilà, c'est pas gagné. C'est pas parce que Tesla y arrive que tout le monde va y arriver.
Non, c'est ça. Ouais. Alors, à suivre pour Fisker. Un autre véhicule à succès qui... on va se demander à la fin de l'année s'il y en a plus que des Fisker Ocean au Québec. C'est l'Acura ZDX.
Oui.
Je sens une pointe de...
un peu de sarcasme.
Acura a eu cette bonne idée de ramener un nom issu du passé qui avait été...
Déjà un succès à l'époque.
Ouais, un premier succès avec un design... Pour moi, c'est un des véhicules les plus laids de la précédente décennie. Ouais. L'Acura ZDX qu'on avait lancé en 2011, si ma mémoire est bonne.
Dans ces eaux-là, oui.
Et là, on ramène ce nom-là parce qu'il coûtait probablement pas cher à racheter. Personne d'autre en voulait. On ramène ce nom-là, mais cette fois dans une formule électrique. Puis une formule électrique qui n'est pas sorcier, là, c'est littéralement...
La même plateforme que le Blazer EV, le Prologue, et etc.
Ouais, mais là, évidemment, comme c'est le ZDX, ça va être le Blazer SS plus performant que le Prologue. Alors, c'est pas plus dur que ça. Combien ça coûte, ça, mon cher Louis-Philippe?
Alors, les prix sont sortis aujourd'hui. Prix de départ, 88 560 $ pour la variante A-Spec, avec des surpiqûres rouges, etc., etc.
Me voilà excité.
Avec 490 chevaux. Et pour la type S, 94 760 bidou. Pour 10 chevaux de plus, on est à 500 chevaux, plus de couple. Quand même,
10 chevaux,
pas mal plus de couple.
Avec ça, je pense que c'est 566 chevaux, là, 566 livres-pieds de couple là, qu'on retrouve dans cette variante-là. Mais pareil, 94
760 $. Qui va acheter ça, sans
blague? Qui va? La mauvaise presse en ce moment sur cette plateforme-là ne l'aide pas plus. Là, c'est n'importe qui est informé un peu.
La mauvaise presse va falloir en revenir parce qu'il va falloir l'endurer, cette plateforme-là, pendant 20 ans.
On est bien d'accord.
On s'entend-tu que la plateforme Ultium de GM, si on l'élimine demain matin, d'après moi, GM fait faillite.
On a trop d'argent. Là, je veux dire, avec l'argent investi là-dessus, là, c'est
je veux dire, le Cadillac Lyric, tous les produits Cadillac qui s'en viennent, c'est ça. Non, peu importe
tout ce qui est électrique, ça sera du Ultium.
Ben, au complet.
Point.
Tu sais, puis reste à voir, le gros point d'interrogation, c'est la prochaine Bolt, là.
Alors, ça sera du Ultium. Il n'y a pas le choix maintenant. Je veux dire, ils ont rendu ça modulaire dès le départ, justement pour dire on va partir des tout petits VUS jusqu'au Hummer, en fait, et ça sera la même technologie à une échelle différente.
La vraie question, c'est est-ce qu'on va développer une nouvelle Bolt ou est-ce qu'on va ramener l'ancienne Bolt?
Non, ça c'est sûr que non. Justement,
ben, Hugues, je me permets de te reprendre.
Justement à cause des batteries.
Ouais, mais Cadillac...
C'est des batteries d'ancienne génération avec lesquelles, en plus, comme on en a parlé souvent, ils ont eu beaucoup d'emmerdements. Non, eux, c'est comme... On dégage ça, maintenant on passe à Ultium. Et on met tout
Je me permets de te dire que j'ai quand même plus confiance en une Bolt présentement qu'en un Blazer EV présentement.
Ah, ça c'est une autre histoire, en termes industriels et en termes de capacité de production, c'est all-in. Ça c'est
parce
sûr.
Parce que GM avait, par exemple, abandonné la Cadillac ATS et 2 ans et demi, 3 ans plus tard, on l'a ramené sous le nom CT4.
Non, mais ça, c'est un positionnement. Est-ce qu'ils vont refaire un Chevrolet Bolt en termes de gamme? Il y a de fortes chances. Là, je te rejoins complètement. Mais ils reprendront pas les anciennes batteries parce que déjà juste trop cher à produire au départ.
Ben, de toute façon, c'est dans la colonne des pertes depuis le jour 1.
Ils ont largement intérêt à fiabiliser ce qu'ils ont en Ultium. Et encore une fois, Ultium, c'est vraiment... ça part du... Tout ce qu'ils ont de plus petit à ce qu'ils ont de plus gros. C'est modulaire.
Je suis le premier à te dire que si jamais il y a une nouvelle génération d'une Chevrolet Bolt et qu'on ne nous la vend pas comme un donné VUS, je vais lever la main.
Oui, mais...
Mais mon feeling, c'est que c'est si c'est basé sur la plateforme Ultium, ça va être une version de base du futur Equinox qu'on va appeler Bolt.
Non, mais attention, ce qu'on appelle Ultium, avec c'est la plateforme électrique, c'est le châssis.
Oui, oui.
Ça n'a rien à voir avec le châssis. Donc, tu peux mettre ça dans des voitures, des camions, des petits camions, des gros camions. Ce qu'on appelle Ultium, c'est l'architecture électrique.
Mais il faut quand même que ce soit compatible avec un châssis qui a été conçu en ce sens.
Oui, mais justement, encore une fois, parce que tout est modulaire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu peux partir de petites puissances jusqu'à de très, très grosses puissances. C'est la même électronique, c'est les mêmes modules de batterie.
Mais pourtant, c'est pas en faisant des petits véhicules abordables que ça va se payer. Cette
non. Ah non, mais c'est pour ça qu'ils sont partis avec un Hummer de 3 tonnes, on est d'accord.
Ben oui, c'est ça.
c'est plus 4 tonnes, en fait.
Oui, voilà.
C'est 9200 livres pour ta gouverne. Mais...
ancre à bateau de croisière.
Hein? Mais... chose certaine, c'est qu'Honda a déjà décidé de lancer la serviette, c'est-à-dire que la plateforme Ultium, on l'utilise...
Seulement pour les premiers véhicules.
Ben, pour le ZDX et pour le Prologue.
Ouais.
Puis après ça, ben, cette technologie-là, elle va être reléguée aux oubliettes. Fait que ça veut dire pour Honda de débourser énormément en outillage, en formation pour la réparation et l'entretien d'un seul véhicule. Parce qu'on sait que ça reviendra déjà pas. C'est assez... Je mentionnais ça aux gens d'Honda. Je dis, moi, si j'achète un Honda Prologue, est-ce que je vais chez Chevrolet pour en faire l'entretien? Parce que si j'avais acheté une Volkswagen Routan dans le temps, je ne serais pas allé chez Volks pour faire mon entretien.
Chez Chrysler,
je serais allé chez Chrysler. On s'entend-tu?
On s'entend.
Puis encore, parce qu'il n'y avait pas tout le temps l'air à savoir comment on arrive. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ZDX, ben, 85 à 95 000 $
Ouais. Et c'est 544 livres-pieds de couple pour la version plus dispendieuse, donc plus exactement. Mais quand même, je ne te sens pas convaincu.
T'as absolument raison.